Il est 13h sur BAC FM 106.1, bienvenue dans le Tour de l'Info. Mardi 9 décembre 2025, ce mois de décembre continue bien au-dessus des normales de saison. On est quand même de 5 à 9 degrés supplémentaires par rapport à d'habitude. Ça la fout mal pour Noël, mais bon, pour compenser, on ouvrira une nouvelle case du calendrier de l'Avent à la fin de ce journal. Et après, on vous emmène en micro-trotte, vous allez voir, c'est fun. Allez, le Tour de l'Info, c'est parti. On commence ce nouveau Tour de l'Info avec un hashtag qui a envahi les réseaux sociaux ces dernières heures, le hashtag Salcon. Pardonnez le langage familier, mais ce n'est pas le mien, vous allez comprendre. A l'origine, c'est une insulte lâchée par Brigitte Macron à l'encontre des militantes féministes du collectif Nous Toutes, qui avait interrompu un spectacle de l'humoriste Harry Habitant. Ces militantes portaient des masques à son effigie avec la mention « violeur » pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles, alors que le comédien a bénéficié d'un non-lieu dans une affaire de viol. Je rappelle que les deux juges avaient cité la nature indiscutable du stress post-traumatique de la plaignante. Sur une vidéo, on entend la première dame parler de Salcon. Son entourage explique qu'elle craquait, je cite, sur la méthode radicale du collectif, mais le mot passe très très mal dans le camp féministe. Pour ceux qui peinent à croire cette news, je vous propose un extrait.
C'est vrai, t'es comment ?
J'ai peur.
T'as peur de quoi ?
De tout.
Mais là, si les Salcon, on va les foutre dehors.
Tu crois ?
C'est ce que j'ai fait hier, moi.
S'il y a un vrai happening... On verra, il y a une embrouille.
On rentre comme ça, Régis, on rentre,
allez.
Glaçant, n'est-ce pas, hein ? En réaction, des actrices, des autrices et des militantes ont décidé de retourner l'insulte. « Moi aussi, je suis une sale conne », écrit Judith Godrèche sur fond noir sur Instagram, bientôt suivi par Camille Kouchner, Camélia Jordana ou encore le collectif Nous Toutes qui reprend le hashtag avec la couleur violette du féminisme. Sur X, des élus comme Audrey Gaëtan ou Manon Aubry s'en emparent aussi pour rappeler le combat contre les violences faites aux femmes et dénoncer ce qu'elle voit comme un mépris et des victimes. Pour beaucoup d'opposants, le contraste est violent. On est passé des droits des femmes, grande cause du quinquennat, à une première dame qui insulte des militantes féministes. Le hashtag Salcon devient donc un slogan de ralliement, mais aussi un mouvement du symbole de la fracture entre le discours officiel de l'Elysée et les mouvements qui se battent concrètement contre les violences sexistes et sexuelles. Je tiens à rappeler sur ces ondes que si vous êtes en danger ou que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous rapprocher de Décidel à Nevers ou appeler le 3919. Aujourd'hui, c'est la journée de la laïcité et vous allez entendre parler dans plusieurs médias de ce que cette valeur indispensable à notre démocratie est véritable pilier de la liberté de croire. Sur BAC FM, j'ai décidé de faire l'angle inverse, c'est-à-dire de choisir de dire ce que la laïcité n'est pas. La laïcité, par exemple, ce n'est pas de choisir un camp religieux contre un autre. Dans son dernier livre, La messe n'est pas dite, Éric Zemmour oppose un soi-disant bloc judéo-chrétien aux musulmans et présente l'islam comme une menace globale pour la France. Alors là, par exemple, on n'est plus dans la laïcité, on est dans le choc des civilisations, une vision qui divise les religions entre bonnes et mauvaises, alors que la loi de 1905, elle, met tout le monde à égalité. La laïcité, ce n'est pas non plus de réécrire l'histoire pour servir un camp, hein. Quand Zemmour minimise le rôle de l'Église et de l'Europe chrétienne dans les persécutions des juifs, ou relativise Vichy, il ne défend pas une valeur républicaine, il fait du révisionnisme pour pouvoir désigner un nouvel ennemi, les musulmans, en expliquant que l'Occident n'aurait plus à culpabiliser. Et surtout, la laïcité, ce n'est pas une arme pour s'en prendre à des croyants dans leur vie de tous les jours. La vraie laïcité, c'est un état neutre qui protège la liberté de croire ou de ne pas croire, qui garantit les mêmes droits pour une femme voilée, un juif pratiquant, un athée ou un catholique, un bouddhiste ou j'en passe. En cette journée de la laïcité, plutôt que d'opposer les religions entre elles, on peut donc se rappeler une chose simple, la laïcité, ce n'est pas fait pour exclure, elle est faite pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble, même quand on ne pense pas pareil. On enchaîne avec un débat qui touche directement aux droits des femmes et à la façon dont la société regarde leur corps. Le Rassemblement National veut remettre sur la table la réouverture des maisons closes, fermées pourtant depuis 1946. C'est le député RN Jean-Philippe Tanguy qui prépare une proposition de loi pour créer des lieux coopératifs tenus par les prostituées elles-mêmes en expliquant que la pénalisation des clients aurait aggravé leur situation. Face à ça, l'association du mouvement féministe du Nid parle d'une position extrêmement conservatrice et rappelle qu'on vit, je cite, « dans une société post-MeToo où les hommes ne peuvent plus s'accaparer le corps des femmes contre de l'argent ». Elle insiste aussi sur la réalité du terrain. Beaucoup de personnes prostituées sont en situation de grande précarité, souvent marquées par des violences dans l'enfance et de plus en plus jeunes. Quand on parle de prostitution, on ne peut pas oublier le contexte général des violences faites aux femmes. En France, on compte autour de 120 féminicides par an, soit une femme tuée tous les 3 jours par son conjoint ou son ex-conjoint, et plus de 240 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année, selon le ministère de l'Intérieur. Derrière les grands discours sur la protection ou la liberté des prostituées, il y a donc un enjeu très concret. Est-ce qu'on accepte que le corps des femmes reste un lieu de domination, ou est-ce qu'on met vraiment les moyens pour les protéger et les aider à s'en sortir ? On part Hollywood où même les légendes doivent parfois regarder l'heure de plus près. Francis Ford Coppola, le réalisateur du Parrain ou d'Apocalypse Now, vend aux enchères plusieurs montres de collection pour combler le gouffre financier laissé par l'échec de son dernier film Megalopolis. Le long métrage, projet fou auto-financé à plus de 100 millions de dollars, n'a rapporté qu'environ 14 millions au box-office, ça fait peu. Résultat, le cinéaste de 86 ans parle lui-même de devoir maintenir le navire à flot. Ironie de l'histoire, celui qui a été sacré pire réalisateur au Razzie Award pour Megalopolis continue d'assumer son pari. Il rappelle qu'Apocalypse Now, c'est dur à dire, ruiné avant de devenir rentable, a été rentable sur le long terme. Apocalypse Now a été jugé au début mais a été rentable plus tard. Pas question pour lui donc pour l'instant de lâcher son film sur les plateformes. Pas de streaming, pas de version raccourcie, il croit toujours en sa postérité. En attendant de savoir si Megalopolis sera un projet façon Apocalypse Now 2.0, incompris aujourd'hui mais adulé 20 ans plus tard, Coppola a troqué la haute horlogerie pour quelque chose de plus récent à son poignet, une simple Apple Watch. Même pour un monument du cinéma, le prix de l'indépendance artistique peut se payer au centime près. Tiens, et en parlant de pognon, je sais pas où vous en êtes, chers auditeurs, mais les cadeaux de Noël commencent à coûter cher ici, et je parle bien évidemment des frais d'envoi pour le Père Noël. En attendant la paye, on ouvre une nouvelle case du calendrier de l'Avent, jingle! Case du jour de notre calendrier de l'avant-ciné, on repart au milieu des années 2000 avec un téléfilm de feu Disney Channel qui a retourné tous les collèges et les lycées de la planète, High School Musical. On est à East High avec Troy, la star de l'équipe de basket, et Gabriella, la surdouée timide en maths. Alors normalement, ils n'ont rien à faire ensemble jusqu'au karaoké du Nouvel An où ils vont se rencontrer. A partir de là, tout le film c'est « Est-ce qu'on a le droit de sortir de la case où les autres veulent nous ranger ?» Être basketteur et aimer chanter, être fort en sciences et aimer monter sur scène. Refuser les étiquettes qu'on t'accroche au front. C'est ultra kitsch, c'est fluo à s'en crever les yeux, mais c'est chorégraphié au millimètre près et ça reste un vrai film doudou de fin d'année sur l'amitié, la confiance en soi et le fait d'oser se montrer comme on est. Et évidemment, impossible de parler de High School Musical sans sa chanson culte, celle qui a fait danser tout le monde dans les gymnases bras en l'air, We Are In This Together. Allez, on s'écoute un extrait. Et voilà, c'était un extrait de War All In This Together, l'hymne absolu de High School Musical. Si vous avez besoin d'un film réconfortant à regarder en pyjama avec un bon chocolat chaud et une guirlande allumée, High School Musical coche toutes les cases, ça chante, ça danse, ça finit bien, et ça donne envie de croire qu'au lycée comme ailleurs, personne n'est jamais condamné à un seul rôle. Et je ne pouvais pas imaginer un calendrier de l'Avent sans un clin d'œil à la belle génération qu'est la Gen Z, la génération à laquelle j'appartiens. Allez, on se retrouve demain pour ouvrir une nouvelle case et ajouter un autre film dans votre playlist ciné de Noël. C'est la fin de ce journal, chers auditeurs, merci de m'avoir écouté. Après la pause, on va parler de job dating, un concept pour le moins original. Ouais, vous allez voir ça tout à l'heure avec notre superbe stagiaire Paul. Mais avant ça, on s'écoute du Radiohead, à tout de suite sur BAC FM.